Le livre d'Ésaïe, chapitre 62, les 5 premiers versets pour notre méditation de ce jour. Ésaïe 62, versets 1 à 5. Au nom de Jésus. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas sans rien faire, jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour, et que ton salut brille comme une torche enflammée. Les nations constateront que le Seigneur t'a délivré. Tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera le nom nouveau que le Seigneur aura prononcé. Dans la main du Seigneur, de ton Dieu, tu seras comme un turban royal, comme une couronne de fête. On ne t'appellera plus la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Et l'on nommera ta terre la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur. Et ta terre aura un époux. Oui, comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi celui qui te rebâtit sera un mari pour toi. De même, aussi qu'une fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Pour ceux qui étaient présents dimanche dernier ou ceux qui ont écouté la prédication, soit sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, nous avons eu comme thème, rappelez-vous, le Dieu des nuls. Et pour résumer, c'est dans notre abaissement et notre nullité que l'Éternel se révèle à nous, dans toute sa totalité, et non dans la gloire. Et en abordant le texte prévu par le lectionnaire aujourd'hui, de ce jour, nous observons un changement de cap. Oui, il est le Dieu de la nullité, certes, mais de la nullité à l'excellence. Il nous prend là où nous sommes, dans la boue, dans la poussière, pour nous tirer de là vers l'excellence. Et en passant, nous pouvons voir ici clairement l'importance de suivre un lectionnaire, car il y a une continuité et une suite logique entre les différents textes que nous avons eus la fois passée et aujourd'hui. Pour moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la façon dont Yahvé voit Israël. Ici, c'est la version français courant, mais quand j'ai préparé ma prédication, j'avais utilisé une autre version. Et j'ai comparé plusieurs versions, même si je suis protestant, un vrai protestant, j'ai choisi la version catholique qui est la plus adaptée. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas parce que je suis protestant que tout est mauvais de l'autre côté. Et la version catholique, plutôt la Bible liturgique, il a utilisé le mot « ma préférence ». Quand je vais relire le texte ici, au verset 2, les nations constateront que le Seigneur t'a délivré, tous les rois contempleront ta gloire. On te donnera de nouveaux noms, voilà, que le Seigneur aura prononcé. On a dit que tu es mon plaisir. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Mais dans la traduction catholique, elle dit tu seras ma préférence. C'est quand même différent, hein. On dit plaisir du Seigneur. C'est pas clair. Mais quand il dit « tu es ma préférence », c'est plus clair, plus précis. Et la plupart de toutes les versions utilisent l'expression « celle en qui je prends plaisir » ou « mon plaisir est en elle » ou « plaisir du Seigneur ». J'ai retenu la version proposée par le texte liturgique de l'Église catholique qui, selon moi, met bien en exergue la considération de l'Éternel vis-à-vis de ce peuple qu'il avait choisi. « Oui, j'aime toutes les nations. Oui, j'ai créé le monde. Mais ma préférence, c'est toi, ô Israël. » Comment il la voit, ce peuple d'Israël? Il dit c'est sa préférence. Et il explique un peu plus bas, comme celle qui est la plus digne d'être l'épouse de Yahvé. C'est comme un homme qui est en train de réfléchir sur quel type de femme qu'il va choisir comme épouse. Et après réflexion, il a décidé, je vais choisir Israël. C'est ça l'image, un peu comme dans le Cantique des Cantiques. Et par cette métaphore, le texte nous rappelle l'élection de Dieu de ce peuple. Israël est sa préférence, que Dieu a choisi parmi toutes les nations. Et pourtant, il est bien décrit dans le texte que ce peuple paraît délaissé. Oui, toi qui es appelé la délaissée, toi qui es en désolation, oui, aux yeux du monde, tu es nul. Oui, aux yeux du monde, tu es abandonné, parce que Israël, à ce moment-là, était détruit. Le mur de Jérusalem en feu, le temple, il n'y avait plus rien. Donc personne ne l'a désiré, personne ne l'a préféré. Mais moi, dit l'Éternel, je suis toujours fou amoureux de toi. Et c'est l'expression qui est utilisée par le père Henri Boulade, un prêtre catholique que j'apprécie particulièrement, qui est en Égypte. Dieu fou amoureux de son peuple. Et ce peuple est en train de périr. Il n'est pas au sommet de sa vie, il est au fond du gouffre. Et pourtant, le cœur de Dieu bat toujours pour lui. Voilà le contexte. Et contextuellement parlant, Israël, qui était à l'exil, est comparé à une fiancée qui a perdu toute sa dignité. Ça, Israël est défiguré, décoiffé, vous imaginez. André même d'une mocheté extrême aux yeux de toutes les nations. Toutes les nations se moquaient de lui. Ceux qui passaient, qui regardaient le temple, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui est le Dieu de ce peuple qui les a infligé cette punition? Car on ne la reconnaît plus, son prestige initial. Mais l'Éternel ose encore dire que ce peuple est comme une fiancée qui n'a pas perdu sa place ou son prestige à ses yeux. Sa considération aux yeux de Dieu est toujours intacte. Et tout ce qui la regardait et qui la côtoyait croyait qu'elle n'aurait plus sa place dans le cœur de Dieu. Chers amis, le texte, encore une fois de plus, fait taire la bouche et la méchanceté des nations environnantes d'Israël qui se moquaient d'Israël lorsqu'ils étaient en captivité. Il était la risée de tout le monde. Et ceux qui ont entendu la gloire passée d'Israël avant, le voyant réduit à l'exil, ils le traitaient tous à l'abandonné, la désolé. Mais regardez bien au verset 4, il est bien mentionné qu'on ne te dira plus l'abandonné. Oui, avant on t'a traité ainsi, mais à partir de maintenant ce ne sera plus le cas. Oui, avant tout le monde pouvait dire du mal sur toi. Tout le monde lui jetait un discrédit sur ce peuple d'Israël. Mais ce temps prendra fin. Et ce seront toujours ces mêmes personnes qui t'ont dit des choses mauvaises, qui vont t'envier. Regardez le retournement de la situation. Dieu va forcer la bouche de ces méchants qui se sont moqués d'Israël pour dire que ce peuple est un peuple de Dieu. Changement et bouleversement de la situation. Et vous savez, dans le monde où nous vivons aussi, chers amis, nous ne pourrons jamais faire taire les gens de leur méchanceté. Nous ne pourrons jamais faire taire les gens. Nous serons fatigués si à chaque fois que quelqu'un nous offense et nous dise des choses blessantes, que nous allons courir derrière. Tu vas te fatiguer. Alors le réflexe que nous voulons à chaque fois, c'est humain, c'est de réagir de façon épidermique, répondre du tac au tac. N'entre pas dans ce jeu-là. Tu n'en t'en sortiras jamais. Ça devient un cercle vicieux. Et tu vas te détruire. Or, ce que le texte nous donne comme conseil, laisse les choses couler et ne pas conditionner ta vie par rapport à cela. Continue ton chemin. Fixe le regard sur le Christ et laisse la tempête souffler. Car ton Dieu t'a dit, tu ne seras plus l'abandonné. Tu ne seras plus la désolée. Et comme dit un vieux proverbe chinois, nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux à planer au-dessus de nous. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de ne pas les laisser construire leur nid sur notre tête. Voilà la sagesse. C'est une sagesse humaine, mais qui est vraie. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux. Ils ont le droit de voler comme ils veulent. Faire même des acrobaties au-dessus de nous. Mais ce que toi, tu peux faire, ne les permet pas à construire leur nid sur ta tête. Je pense que ce proverbe peut bien nous aider à avancer dans la vie de tous les jours. Nous ne pourrons pas empêcher les malheurs dans le monde. Nous ne pouvons pas empêcher les souffrances arriver dans nos vies. Nous ne pouvons pas stopper la méchanceté de l'être humain dans le monde ou dans la société où nous vivons. Mais ce que nous pouvons faire quand même, c'est de faire en sorte que ces choses-là ne nous paralysent pas. Ma propre conviction, peut-être que vous ne la partagez pas, mais je le dis, les chrétiens ne sont pas appelés à changer le monde. Ne sois pas un idéaliste naïf. Si tu es la lumière du monde, ce n'est pas pour changer le monde. Tu te fatigues pour rien, parce que le monde, c'est écrit, il y a un fatou, un mektoub, comme disent les musulmans, ça va aller vers la destruction. Que tu le veuilles ou non, c'est écrit. La destruction de la mentalité humaine, la destruction de la pensée, la destruction de la société. Ce n'est pas que je suis pessimiste, c'est une réalité biblique. Mais dans cette descente en enfer du monde, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Ne te laisse pas emporter par la vague. C'est là que nous soyons tous des témoins. Les gens vont se poser des questions, mais comment se fait-il, malgré tous ces malheurs, toutes ces choses que nous entendions, pourquoi tu arrives toujours à être debout? C'est ça qui va témoigner ton témoignage. Quelle force que tu as! Et là, le Seigneur t'ouvre une porte, partage celui à qui tu crois. Et Jésus aussi, dans les évangiles, a dit presque la même chose, mais à sa manière, dans sa prière au Père en faveur de ses disciples, il a dit ceci dans Jean 17, 5. Ô Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Jésus ne nous a pas promis que nous n'allons pas souffrir. Jésus ne nous a pas promis que nous n'allons pas pleurer. Jésus ne nous a pas promis que nous n'allons pas être malades. Jésus ne nous a pas promis que nous n'allons pas mourir. Ah oui, les croyants vont aussi mourir, comme tout le monde. Mais il nous a promis de nous garder du mauvais. Le mauvais ici, c'est le diable. Ne te laisse pas piéger par le mal. Il y a aussi une parole de Jésus qui conforte cela, quand il avait dit dans Matthieu 10, 16, « Moi, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc avisés comme les serpents et purs comme les colombes. » L'équilibre. Les chrétiens ne sont pas des naïfs. Ils ont les pieds sur terre. Ils savent bien que le monde où ils sont, c'est un monde cruel. Mais aussi, ils ont une conscience libérée. Ils sont déjà dans l'au-delà. Et c'est ça qui fait le plus par rapport aux autres. Nous avons un espoir qui n'est pas conditionné par ce qui se passe, mais notre espoir est conditionné par ce qui va venir. Vous voyez, dans ces deux versets, on a l'impression qu'on est à la fois livré au danger du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Il y a une sorte de présence active qui nous rassure. C'est la présence de Dieu qui nous dit « Je suis avec toi tous les jours. Je sais que j'ai un Dieu qui marche avec moi dans les ténèbres, dans la tempête et aussi dans la joie. » C'est ça qui me donne le courage de me lever chaque matin. Dès que je me réveille, il est là. Quand je me couche, il est encore là. C'est ça qui est ta force, chers frères et sœurs. Dieu ne nous demande pas d'être des naïfs. Il nous rend même lucides et de bien ouvrir nos yeux, nos réflexions sur tout ce qui se passe autour de nous. Quel est le but de Dieu à nous mettre au milieu de dangers? N'est-ce pas de nous rendre compte que seuls nous ne pourrions pas en s'en sortir? Et aussi pour nous rassurer que notre cas ne soit pas un cas désespéré, comme les autres et le monde veulent nous faire croire et avaler. Et pour clôturer ma méditation, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie? Pour toi, on est au tout début de l'année maintenant. Qu'est-ce qui est le plus important dans une vie? Alors pour moi, je crois qu'il n'y a plus rien de plus rassurant que de savoir qu'au regard de mon Dieu, il prend du plaisir à me voir. Voilà, c'est le regard du Seigneur qui importe. Et pourtant, nous, ce qui nous importe, c'est le regard des autres. Savez-vous que le regard des gens sont trompeurs? Ils vont vous faire croire que vous êtes important, mais dès que vous tournez le dos, vous n'êtes rien pour eux. Combien, regardez sur Facebook, vous avez combien d'amis sur votre compte? Est-ce vraiment des amis? Ils vont dire « like, j'adore, yes, super ». En réalité, ils ne sont pas là. Que votre vie soit un plaisir aux yeux de l'Éternel. Amen.